Bonjour, Raymond Richard au micro. Eh bien, pour cette émission Terre solidaire, j'ai autour de moi Michaël Vallée du service culturel de la mairie de Vernouillet en Eure-et-Loire et M. Olivier Sarrazin, réalisateur d'un documentaire qui s'appelle carrément Cornichon. Alors vous allez peut-être vous demander, mais qu'est-ce que cela a à faire avec l'émission Terre solidaire? Eh bien, vous allez tout de suite comprendre parce que la ville de Vernouillet programme tous les ans un festival écofilm. Là, je me tourne vers Michaël Vallée. Ça fait combien de temps que ce festival existe?
Alors, ça fait 10 ans, puisqu'on a commencé en 2006, et c'est la 11e édition, donc cette année.
Donc, il y a toujours des films qui présentent des situations, ici ou là dans le monde, des situations désastreuses à cause de l'homme qui ne respecte pas l'environnement.
Voilà, exactement. Alors, des situations désastreuses, mais on essaye d'avoir aussi quelques...
D'apporter des
solutions. Voilà, d'être un petit peu optimiste.
Et dans l'édition 2016, M. Olivier Sarrazin a présenté son film Carrément Cornichon. Et j'avoue que c'est fabuleux, et c'est pour ça que je vous ai demandé de venir à Radio Grand Ciel. Donc merci d'être là. Et tout de suite, je voulais vous demander, qu'est-ce qui vous a amené à fabriquer ce film?
Bah écoutez, c'est moi qui vous remercie de votre gentille invitation déjà. Alors, qu'est-ce qui est à l'origine de ce film? C'est un constat qui est très simple. Je me suis aperçu, en lisant un article, que tous les cornichons que nous trouvions aujourd'hui en France faisaient 6000 km pour arriver jusque dans nos sandwichs ou dans nos assiettes. Ils étaient tous produits en Inde. Et en parallèle de ça, je me suis aperçu également que les Indiens ne mangeaient pas de cornichons. Donc, on était face à une culture qui était totalement
déconnectée de la vie,
délocalisée. Et les cornichons qui, pendant des siècles, enfin tout du moins jusqu'aux 20 dernières années, étaient produits en Bourgogne par des familles de paysans, ben ces cornichons n'étaient plus du tout faits là-bas, donc une perte d'activité pour certains et une activité totalement déconnectée pour d'autres.
Alors vous comprenez, chers auditeurs, que nous sommes en plein dans la problématique du Comité catholique contre la faim et pour le développement qui soutient une agriculture paysanne au service des paysans des tiers-monde pour qu'ils mangent et non pas d'une agriculture qui fait faire des kilomètres aux produits tout simplement pour engraisser Unilever ou autre entreprise multinationale agroalimentaire en affamant les paysans des tiers-monde, en tout cas en les privant de leurs terres et puis en déracinant les cultures. Donc, bien, nous sommes tout à fait dans une ligne que nous partageons avec beaucoup d'humanistes, dont vous, monsieur. Et c'est pour ça que je vous ai demandé de présenter le film. Parce que vous soulignez aussi autre chose, c'est que pour cultiver les quelques cornichons restants en France, en plus, on fait appel à de la main-d'œuvre d'Europe de l'Est.
Oui, alors il y a plusieurs aspects au problème, en effet. C'est que aujourd'hui, il reste un seul producteur de cornichons en France. Produire du cornichon, c'est un produit saisonnier, hein, ça se fait l'été. Ça demande énormément de main-d'œuvre parce qu'il faut ramasser tous les jours et plusieurs fois par jour la plante. Et donc, ce besoin de main-d'œuvre, aujourd'hui en France, est fourni par des gens qui viennent la plupart du temps de Pologne. C'est devenu un petit peu une tradition, une filière par rapport à la Bourgogne. Alors pourquoi des gens qui viennent de Pologne? Parce que en fait le salaire qu'ils peuvent avoir en France, qui correspond au SMIC, hein, SMIC horaire traditionnel, est pour eux très important par rapport à leur pouvoir d'achat dans leur pays.
Ce qui nous renvoie aussi à la solidarité à avoir entre pays européens, parce que tout de même, la création de l'Europe s'est d'abord faite aussi, du moins aux origines, sur quelque chose de solidaire. Donc soyons solidaires, en ne considérant pas forcément ces personnes qui viennent de l'Europe de l'Est comme ceux qui viennent, entre guillemets, piquer le travail d'ici, mais en s'apercevant qu'il y a toute une économie qui considère que l'homme est une variable d'ajustement. Et ça, j'ai trouvé aussi que c'était très présent dans votre film.
Exactement, c'est tout à fait ce qu'on voit avec ce qui se passe en Inde. Hein. Donc, j'en parlais tout à l'heure, cornichon, ça demande de la main-d'œuvre. En Inde, la main-d'œuvre est non seulement abondante, mais elle est surtout très très peu chère. Hein. Un ouvrier coûte 2 euros par jour là-bas, et encore en étant excessivement bien payé. Donc, on peut se permettre, en effet, de faire pousser, de récolter énormément de fruits, sans pour autant avoir une attitude, je dirais, équitable d'un continent à l'autre pour la même production.
Ce qui m'a aussi impressionné, c'est de voir que finalement, les cornichons, ils sont toujours quand même vendus ici sous les marques Amora et Maille, c'est-à-dire des marques typiquement et traditionnellement françaises. Et en fait, vous nous avez expliqué qu'on a simplement modifié une petite partie de l'étiquette. Alors parlez-nous un peu de tout ça.
Oui, exactement. Alors c'est une histoire, comme beaucoup d'autres histoires, qui parle de multinationales, qui parle de rachats. Amora et Maille, fleurons de la conserverie française, se sont fait racheter par plusieurs grands groupes jusqu'à tomber dans l'escarcelle de Unilever, qui est donc une des quatre grandes multinationales de l'agroalimentaire au monde. Et dès ce moment-là, Amora et Maille, qui travaillaient avec les producteurs de cornichons locaux, ont été sommés de revoir totalement leur mode d'approvisionnement et de production. Donc ça a commencé par aller faire pousser du cornichon en Inde et habituer les Indiens à ce genre de culture afin d'avoir des coûts plus bas sur le produit. Donc les conserveries étaient encore à l'époque sur le territoire français, mais les producteurs français de cornichons avaient été remerciés. Et ensuite, dans un deuxième temps, une fois que l'Inde était capable de produire, on a également demandé à l'Inde de mettre en bocaux, et donc on a transféré, délocalisé les conserveries là-bas, c'est-à-dire que tous les salariés qui travaillent dans les conserveries en France ont également été licenciés. On est dans une logique du pur profit, parce que
strictement financière, oui,
strictement
exactement.
Financière, mais en plus qui va très loin dans la presque dans la folie, parce que vu le prix d'un bocal de cornichon, une fois qu'on a compté les 10 ans de recherche et développement qu'il a fallu mener pour inciter les Indiens à produire du cornichon, pour leur apprendre, pour réussir à domestiquer des terres là-bas, une fois que l'on a parlé des primes de licenciement qui ont dû être versées, en fait le gain est pratiquement minime. C'est presque un exercice, je dirais, sportif ou ludique d'avoir délocalisé la production de cornichons, parce que franchement ça ne n'apporte pas grand-chose de plus que de les faire cultiver par des Français et mettre en bocaux par des Français également.
Donc on voit ici que cette délocalisation, d'une part, elle détruit l'économie indienne quelque part, enfin en tout cas elle prend des terres qui pourraient être avantageusement utilisées pour manger en Inde, et puis ici elle détruit aussi tout le tissu économique d'une région, la vie sociale d'une région, et finalement elle est désastreuse pour tout le monde. La seule chose intéressante, et même encore vous évoquez que peut-être pas, c'est l'intérêt financier de l'affaire.
Oui, l'intérêt financier est vraiment minime. Et alors, ce qui est très grave, notamment, c'est pour les Indiens. Parce qu'il y a déjà eu des soucis par rapport à ça. Vous savez que l'Inde, aujourd'hui, est l'un des pays au monde où il y a le plus de suicides d'agriculteurs. Il y a eu une hécatombe il y a quelques années à cause de la crise du coton. C'est-à-dire que le prix du coton s'est mis à baisser dangereusement. La Chine a repris le marché. Tous les cultivateurs indiens qui étaient spécialisés dans le coton ont dû mettre la clé sous la porte. Et ça a été 25 000 suicides, ce qui n'est quand même pas rien, même vu la taille du pays. Aujourd'hui, avec le cornichon, c'est la même chose. On se rend compte que le niveau de vie en Inde commence à augmenter. Donc, les multinationales qui font du cornichon, Unilever,
sont
en train de chercher ailleurs.
Voilà,
on pense au Vietnam, on pense à d'autres endroits où les niveaux de vie sont plus bas. Ce qui veut dire que sur les 15 000, 20 000 familles indiennes aujourd'hui qui travaillent pour le cornichon, du jour au lendemain, peuvent se retrouver dans le même état que leurs collègues qui faisaient du coton, c'est-à-dire mettre la clé sous la porte, perdre l'exploitation, et on l'imagine arriver à des extrémités, comme le suicide par exemple.
Et alors ce qui m'a impressionné aussi dans ce que vous avez démontré dans votre film, c'est le fait que l'on est toujours prisonnier là aussi de pesticides, parce qu'en Inde, le climat se prête à ce qu'il y ait plusieurs récoltes, et donc qu'il y ait aussi un lieu propice au développement des parasites du cornichon.
Tout à fait. On est dans une culture très très spécifique, c'est-à-dire que le cornichon tel que nous le consommons en France n'est pas franchement censé pousser en Inde. Donc il a fallu, au-delà d'apprendre aux hommes comment le cultiver, aux Indiens comment le cultiver, il a fallu amener énormément d'intrants, donc d'engrais chimiques pour travailler la terre. Il a fallu utiliser une graine qui vient d'un mélange génétique pour que ça puisse marcher.
Oui, alors hybride voilà. Que ce soit en France ou en Inde, c'est la même chose.
Oui, mais ce ne sont pas les mêmes hybrides, ce ne sont pas les mêmes semences. Et surtout, comme vous le soulignez, avec trois cultures par an, on a un problème avec l'accoutumance, avec les prédateurs. prédateurs, ce sont les insectes. Donc, pour en effet se débarrasser de ces insectes, il n'y a qu'une solution, c'est en effet de dépendre des pesticides sur les cultures, de manière à ne pas avoir ces problèmes-là. Mais malgré cela, la production est en grande partie contaminée. Aujourd'hui, il faut savoir que la production de cornichons en Inde, il y a 70% qui part au rebut parce qu'on trouve des vers dedans, on trouve des... Alors je dis, il y a 70% qui part au rebut, pas tout à fait, parce qu'on lave les choses et on le vend à prix encore un petit peu plus bas pour la grande distribution. Mais voilà, on est vraiment dans un système qui est perdant-perdant, et à part pour le sport, je dirais pour jouer à la mondialisation, on voit pas très bien où est l'intérêt de tout ça.
En plus, sur le plan écologique, cela fait avaler aux gens des cornichons, certes, mais les cornichons indiens sont donc, si j'ai bien compris, lavés. Il y a des pesticides, on a extrait les petits vers, donc on mange des portions de cornichons. Donc, véritablement, là, c'est, excusez-moi l'expression, mais c'est dégueulasse de faire manger ça aux humains.
Oui, malheureusement, il n'y a pas que le cornichon dans ce cas-là, mais c'est vrai que moi, ce qui m'intéressait en tout cas dans ce film, c'est de prendre cet exemple qui est un petit peu anodin. Après tout, le cornichon, c'est juste un petit condiment. On peut s'en passer. Ça sert à voilà, à mettre dans un sandwich, à manger à l'apéritif peut-être. Mais voilà, ce petit fruit de la fête, je dirais, d'un seul coup, il traîne derrière lui une histoire qui peut devenir vraiment tragique si les choses continuent comme elles sont parties.
Et surtout, si ce qui se passe pour le cornichon, ça se passe aussi pour un certain nombre d'autres produits, dans certains cas, des produits essentiels pour notre nourriture ici. Donc, on ruine des agriculteurs ici et on ruine les agriculteurs là-bas. Et de plus, on prive aussi les gens de nourriture. Donc là, il y a quand même des enjeux qui paraissent... important à la fois au niveau de la faim dans le monde et au niveau de l'écologie, parce que ensuite c'est beaucoup de cornichons. Alors c'est vrai qu'en ce moment le pétrole est bas, mais il faut quand même les transporter. Donc il faut transporter les yaourts qui font 5000 km, les fleurs qui en font 10 000. Alors il y a quand même une hérésie totale. Et je pense que c'est ça votre objectif quand vous faites ces films.
Complètement, c'est de dénoncer cette espèce de spatialisation comme ça de l'alimentation et militer pour que le producteur et le consommateur se retrouvent finalement dans un espace géographique qui est le plus court possible. C'est ce qu'on appelle les circuits courts. On a bétonné les alentours de chacune des villes pour y faire pousser des centres commerciaux avec des magasins de choses qui sont peut-être pas forcément utiles. Et on a totalement, comment dire, annihilé les surfaces agricoles pour faire du maraîchage, pour faire pousser des choses. Aujourd'hui, pour nourrir une population, bien sûr, on est obligé de faire venir de très très loin des denrées alimentaires, ce qui est totalement aberrant parce que bien, ça ne pourra pas continuer comme ça éternellement. Et le problème de l'alimentation se répercute aussi dans les pays du Sud, où là, pour le coup, nos surplus alimentaires, que ce soit du lait, du blé et tout ça, produits à bas coût, vont être en concurrence avec les cultures vivrières de ces pays-là. Et d'un seul coup, on est en train d'appauvrir totalement des paysans à l'autre bout de la planète, et nous-mêmes, en nous appauvrissant d'une certaine manière, tant par la qualité que par le lien social qui pouvait être fait avec
les cultures. Oui, alors il y a aussi tout cet aspect de la relation qu'on pouvait avoir avec l'agriculteur du coin, dont on voyait les vaches ou dont on voyait les champs. Monsieur Olivier Sarrazin, bravo pour votre film. Le temps d'émission s'achève. J'espère que ce film tournera beaucoup en France. Et je vous dis merci beaucoup d'être venu à Radio Grand Ciel. Aux auditeurs, je dis au revoir et bonne semaine à tous.
Merci, au revoir.